Chapitre 11. Deux amants. Indiana, qui n'avait songé qu'à fuir, sans écouter un seul mot des représentations de Mandelberg, était presque revenue jusqu'à la cour de l'église, où, s'appuyant sur la pierre d'un tombeau qui lui avait déjà servi lorsqu'ils attendaient la voiture, elle aperçut le jeune Melmont. Mue par un instinct de coquetterie, elle pressa sa marche. Il entendit le pas précipité d'une femme et leva les yeux. Plus belle encore par la vivacité de sa fuite qui animait son teint et lui fournissait l'occasion de déployer toutes ses belles formes, Indiana parut plus que jamais, aux yeux du poète amoureux, un objet céleste. Aussitôt, cédant à une impulsion irrésistible, il s'approcha. « Oh, ciel !» s'écria-t-elle, tout hors d'haleine et s'arrêtant à sa rencontre. « Je vais mourir ! Je vais mourir ! Un taureau enragé me poursuit !» Edgar voulut expliquer à Melmont comment et pourquoi il n'y avait rien à craindre. Mais Melmont ne put ni le voir ni l'entendre. « Ah, donnez-moi donc, s'écria-t-il d'un ton emphatique, accordez-moi le bonheur de vous protéger, de vous sauver. » Le zèle de Melmont et son geste montraient l'intention bien marquée de la recevoir et de la porter dans ses bras. Mais Edgar, se plaçant entre eux, lui dit « Pardon, monsieur, cette dame est confiée à mes soins. »« Oh, ne vous battez pas pour moi, n'ayez point de querelle !» s'écria Indiana d'un ton moitié ingénu, moitié affecté. « Non, madame, répondit Melmont en se retirant respectueusement, je sais trop combien j'ai peu de droit à cet honneur. Cependant, permettez-moi, monsieur Mandelberg, de vous aider à trouver un asile et souffrez, madame, que je reste auprès de vous jusqu'au moment où vous serez parfaitement remise de cette alarme. » Indiana, qui n'était nullement insensible à ce langage, jeta un coup d'œil sur Edgar et chercha à pénétrer ses sentiments. Edgar ne laissa voir aucune surprise. Il avait déjà observé la vive impression qu'avait faite la beauté d'Indiana sur l'âme de Melmont. En ce moment même, il paraissait sincère dans son admiration romanesque. Edgar se contenta de répondre « Madame, il n'y a rien du tout à craindre. »« Oh, comment pouvez-vous parler ainsi ?» dit Indiana. « Comment pouvez-vous prendre à moi si peu d'intérêt ?» « Du moins, s'écria vivement Melmont, du moins consentez à accepter une double garde. Monsieur Mandelberg ne refusait pas mon secours. » Mandelberg, un peu embarrassé, répondit « Je n'ai rien à décider sur ce qui concerne particulièrement Miss Windermere, mais certainement il n'est ici besoin du secours de personne. » « Non, non, s'écriait Melmont avec les mains jointes, vous ne m'ordonnerez pas de vous quitter jusqu'à ce que le danger soit tout à fait passé. » Indiana triomphait au fond de son cœur, ne doutant pas que Mandelberg ne fût jaloux. Miss Margland lui avait dit que c'était le moyen le plus sûr d'animer ses sentiments. Et, indépendamment de cette idée, l'ardeur et l'enthousiasme du jeune étudiant ne pouvaient que lui paraître très flatteurs. Elle lui permit poliment de rester, mais elle déclara qu'elle ne consentirait jamais à repasser par ce chemin. Ils prirent donc un petit détour pour se rendre à la grande route. Indiana avait à chaque instant des tressaillements, des frayeurs et poussait de petites exclamations, ce qui la faisait paraître toujours plus ravissante aux yeux du poète, tandis qu'Edgar marchait gravement et en silence, se disant à lui-même qu'il était peu convenable qu'un étranger vînt se mêler de défendre une jeune personne qui avait été mise sous sa protection. À chaque exclamation d'Indiana, Melmont en poussait une autre. « Quelle aimable timidité ! Quelle délicatesse féminine ! Que ces terreurs sont belles ! Que ces alarmes sont touchantes !» Ces propos enchantaient Indiana, surtout quand ils pouvaient être entendus par Edgar. Et si en moment de respectueux silence en interrompait le cours, de nouveaux tressaillements, de nouvelles terreurs, des palpitations, des faux pas, les rappelaient sans cesse, et de doux sourires enivrants, pour prix de ses éloges, l'enthousiaste complimenteur, alimentait son amour et empoisonnait sa tranquillité. La première personne qu'ils rencontrèrent fut Miss Margland, qui, tremblante, autant de colère que d'effroi, fuyait encore la poursuite du taureau. Edgar lui demanda des nouvelles de Sir Hugh et de toute la société, mais elle ne put parler que de Lionel, de son insolence, de sa méchanceté. Sans son affection pour Indiana, elle ne consentirait pour rien au monde à vivre un moment de plus dans la maison de son oncle. « Mais où est Sir Hugh ? » répétait Edgar. « Où sont ces dames ?»« Sous les pieds du taureau, » répondit-elle, « autant que je puis le présumer. J'ai mieux aimé m'enfuir que d'être écrasée moi-même, ce qui ne pouvait manquer d'arriver, puisque M. Lionel m'avait indiqué à l'animal furieux. » Edgar proposa de doubler le pas pour les rejoindre, mais Miss Margland refusa formellement de retourner. Et Indiana, toujours prompte à partager une alarme, déclara qu'elle mourrait d'effroi si elle était obligée d'approcher à 100 toises de cet horrible champ. Edgar représenta que le baronnet les attendrait, mais Melmont, d'un ton plus doux, parla de crainte, de danger et de sensibilité. Et Edgar vit bientôt qu'il perdait ses paroles. Pour prévenir de nouvelles séparations, il prit alors le parti d'aller lui seul rejoindre la société, et il fut convenu que Miss Margland et Indiana l'attendraient sur la grande route. Melmont se crut au ciel. À peine pouvait-il modérer ses transports en se voyant chargé lui-même du soin d'Indiana. Et il n'y a pas le plus léger doute qu'il n'eût profité de cette occasion pour lui déclarer ouvertement la passion dont son cœur était enflammé, s'il n'eût pas été retenu par la présence de Miss Margland. Il ne montra donc que du zèle et du respect. Edgar eut bientôt atteint le banc sur lequel étaient assis le baronnet, le docteur Marchmont, Lionel et Camilla. « Dieu nous soit en aide !» s'écria le baronnet. « Voilà le jeune Edgar qui revient sans Indiana. C'est ce que je n'attendais pas de votre part, mon jeune monsieur Edgar. Je ne vous croyais pas capable de la laisser ainsi, je ne sais où, et de revenir sans elle. » Edgar l'assura qu'elle était en lieu de sûreté et sous la protection de Miss Margland, mais que ni l'une ni l'autre ne voulant revenir de ce côté, il avait pris le parti de rejoindre la société pour convenir ensemble du lieu où tout le monde pourrait se rassembler. « Alors vous avez très bien fait, mon cher monsieur Edgar, comme cela vous est ordinaire, et maintenant je suis fort tranquille pour Indiana. Mais Eugénia, je ne saurais dire ce qu'en a fait le docteur, à moins qu'ils ne soient ensemble occupés à étudier quelques-uns de leurs verbes grecs, ce qui est assez probable. Seulement j'aurais désiré qu'ils eussent choisi un autre moment, ne me souciant pas de rester ici encore longtemps. » Edgar dit qu'il allait courir à la recherche. Mais s'adressant à Camilla avant de partir, « Vous seul, » dit-il avec un sourire d'approbation, « êtes restée tranquille au milieu de la bagarre. » « J'ai, » dit-elle, « trop vécu au milieu des villageois pour être effrayée d'un mugissement, et le docteur Marchmont m'a assuré qu'il n'y avait pas de danger. « Vous pouvez donc, » ajouta-t-il avec un regard expressif, « écouter la voix de la raison, même quand vous êtes alarmée. » Camilla leva les yeux et le regarda. Mais elle les baissa de nouveau et ne répondit point. Si vous, dit-elle en elle-même, n'aviez pu faire entendre raison à Indiana, cela m'étonnerait beaucoup. Il partit alors pour découvrir où était Eugénia, en recommandant à Lionel de la chercher aussi par une autre route. Mais Lionel n'eut pas plus tôt appris en quel endroit était restée Miss Margland, qu'oubliant tout à coup son repentir, il quitta tout pour l'aller rejoindre. Edgar chercha sans succès pendant près d'une demi-heure, et il revenait sérieusement inquiet vers Sir Hugh quand un paysan dont il était connu lui dit qu'il avait vu Miss Eugénia Tyrold avec un fort joli gentilhomme de la ville entrer dans une ferme qu'il lui montra. Edgar s'y rendit sur le champ, et comme il approchait de la maison, il aperçut en effet, à travers une fenêtre, Eugénia assise et Bellamy à ses genoux. Frappé d'étonnement, il entra brusquement. Bellamy se leva, surpris et confus, et Eugénia, plus confuse encore, prit Edgar par le bras sans pouvoir lui parler. Il lui dit que son oncle et toute la compagnie l'attendaient avec inquiétude. « Et où sont-ils ? » s'écria-t-elle. « J'ai été dans des transes mortelles, mais je n'ai pas eu la force. Monsieur m'a dit que le péril était trop grand. Il n'a pas voulu souffrir. Il a envoyé chercher une voiture, quoique je lui ai répété que j'aimais 1000 fois mieux m'exposer à périr avec eux que de me sauver seule. Tout le monde est parfaitement en sûreté et il n'y a pas eu le moindre danger. On m'a dit, on m'a assuré, reprit Bellamy, qu'un taureau furieux courait tout le pays, et j'ai jugé à propos d'envoyer à la prochaine auberge chercher une chaise pour reconduire cette jeune lady chez ses parents. Edgar ne répondit point, mais il offrit son bras à Eugénia pour venir rejoindre son oncle. Elle l'accepta et Bellamy l'accompagna de l'autre côté. Edgar garda le silence pendant la route. L'attitude dans laquelle il avait surpris Bellamy, en l'assurant de la nature de ses prétentions, avait fait naître en lui des doutes alarmants sur la destination de cette chaise qu'il avait envoyée chercher. Était-ce en effet pour la ramener à ses parents ou pour l'en éloigner ? Et dans ce dernier cas, Bellamy aurait-il eu le pouvoir de rendre Eugénia sa complice ? Le silence d'Eugénia, qui n'avait été que l'effet de sa confusion, augmentait encore ses soupçons. Bellamy lui avait persuadé qu'elle était dans le plus imminent danger et l'avait entraînée de prairie en prairie en lui faisant croire que le terrible animal était à sa poursuite. Parvenue à la ferme, n'ayant plus à craindre pour elle-même, toutes ses inquiétudes s'étaient tournées vers ses amis. Elle voulait, quoi qu'il dût en arriver, partager leur sort. Et Bellamy, qui avait demandé une voiture, s'était alors jeté à ses pieds pour la supplier de ne pas exposer sa vie par une imprudente résolution. Elle désirait ardemment de pouvoir donner à Edgar cette explication. Elle était loin d'approuver la hardiesse de Bellamy, qu'elle regardait comme une injure cruelle faite à Clermont, quoique sous un autre rapport, elle lui parût pardonnable, puisqu'il ne s'était mis à genoux que pour la supplier de ne pas exposer sa vie. Mais elle n'osait amener la conversation sur ce sujet. Bellamy était donc le seul qu'il parla, et ses observations, auxquelles les deux autres ne répondaient point, contribuèrent peu à les faire sortir de leur rêverie. Quand ils arrivèrent auprès du baronnet, celui-ci fut saisi d'une nouvelle crainte. « Qu'est ceci ? » s'écria-t-il en apercevant Bellamy. « On ne voit ici que des choses extraordinaires. »« Monsieur, continua-t-il, qui vous a permis d'enlever ma nièce des mains de son propre instituteur ? Car je puis bien lui donner ce nom, quoiqu'à proprement parler, il ne soit entré chez moi que pour être le mien. Mais c'est une affaire qui ne vous regarde pas. » « Monsieur, répondit Bellamy en le saluant, je crois avoir eu le bonheur de vous rendre service et non le chagrin de vous offenser. J'ai vu cette jeune lady dans un pressant danger, je me suis hâté de la placer en un lieu sûr, d'où j'ai demandé une chaise de poste pour la reconduire chez vous. » « Oui, mon cher oncle, » dit Eugénia, revenue de son trouble. « Monsieur a pris beaucoup de peine pour moi, et quoique M. Mandelbert nous assure qu'il n'y a point eu de danger réel, monsieur a cru qu'il y en avait, et je lui ai conséquemment beaucoup d'obligations. « En ce cas, monsieur, je vous suis aussi fort obligé, » en se détournant, « quoiqu'à vrai dire, j'aimerais tout autant que cela ne fût pas arrivé. « Mais où est le docteur Orkborn ? J'espère qu'il ne lui sera point arrivé de malheur. » Au moment de l'effroi général, dit Eugénia, j'ai accepté le premier bras qui m'a été présenté. Je n'ai point vu depuis le docteur Orkborn. Je ne puis dire, reprit Sir Hugh, qu'il soit fort soigneux de remplir les commissions dont on le charge, d'après quelques preuves particulières que j'en ai. Cependant, je voudrais savoir ce qu'il est devenu. Personne ne put lui en donner des nouvelles. « Ô ciel ! » s'écria-t-il, « je parierai 10 contre 1 que ce sera lui, ce pauvre docteur, qui sera resté sous les pieds du taureau, tandis que tous les autres ont eu le bonheur de s'échapper. » Cela fit naître docteur Marchmont d'un soupçon qui le porta à retourner à l'escalier qui conduisait à la prairie. À peine l'avait-il descendu qu'il aperçut le docteur Orkborn assis tranquillement à l'endroit même où il avait tiré ses tablettes, levant parfois les yeux au ciel, parfois les abaissant sur son papier, mais ne les portant jamais autour de lui, tant il était absorbé dans la profondeur de ses méditations. Retiré de sa rêverie par le docteur, son premier soin fut de chercher Eugénia. Il n'avait pas douté qu'elle ne dût rester tranquille à ses côtés. Lorsqu'il vit qu'elle n'y était plus, il en ressentit un grand chagrin. Le docteur Marchmont le rassura et le conduisit au groupe qui l'attendait. « Ah, vous voilà !» s'écria le baronet, « et le taureau ne vous a pas éventré plus que moi. Que Dieu soit loué, quoique je ne puisse pas dire que vous ayez pris grand soin de ma nièce, car personne ne peut savoir ce qu'elle serait devenue sans cet honnête monsieur qui nous est étranger et que j'ai vu aujourd'hui pour la première fois. » Alors il plaça, avec une sorte de solennité, Eugénia sous la protection spéciale du docteur Marchmont. Orkborn, piqué de ce nouvel arrangement, s'attacha à suivre Eugénia pas à pas et lui donna obstinément toute son attention. Arraché tout à coup à la chaîne d'idées qui l'entraînait, sentant qu'une révolution totale venait de s'opérer dans ses pensées, sensible d'ailleurs à la disgrâce méritée qui faisait passer dans les mains d'un autre le soin de protéger Eugénia, il remit décidément à une autre circonstance le soin de ses importantes annotations pour s'occuper sans réserve et sans distraction de ses autres devoirs.